Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cet enfant est destiné à être une cause de chute et de relèvement pour beaucoup d'hommes. Dans cet épisode de la présentation de Jésus au Temple, nous avons un résumé de toute l'œuvre rédemptrice et régénératrice de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'offrande anticipée de son sacrifice, agréé par son Père, qui est à l'origine de l'Église, l'Église qui rassemble l'humanité régénérée et dont les membres sont appelés à reproduire chacun dans sa vie cette oblation. Et toutes les circonstances de cet épisode de la vie de notre Seigneur sont très riches en symbolisme. Dans un sacrifice d'Holocauste, on distingue quatre parties, quatre actes. Le premier acte, c'est l'offrande présentée à Dieu solennellement, ce qui correspond dans la messe à l'offertoire. Puis vient l'immolation sanglante, qui correspond dans notre messe à la consécration du précieux sang. Enfin, la consommation par le feu, puis la communion qui réconcilie Dieu et le peuple. Ici, dans la présentation de Jésus au Temple, nous sommes au premier acte, c'est-à-dire l'offertoire. Dieu s'approprie la victime dont il va dès lors posséder seul l'usage. Et c'est symbolisé par le geste des deux mains que faisaient les prêtres, non pas à l'occasion de la présentation au Temple, mais dans les sacrifices de l'Ancien Testament et encore dans le canon de la messe au rite romain. Ce geste des deux mains posées au-dessus de la victime qui symbolise la prise de possession de la victime par Dieu, par les mains du prêtre. Jésus, dans cet événement, s'offre donc à son Père. L'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur jouit de l'usage de la raison, s'offre dès l'incarnation, dès qu'il reçoit cette nature humaine. Le Verbe incarné s'offre dans le sein secret de la Vierge Marie à son Père. Il fait vœu d'hostie et de servitude. Mais comme ce sacrifice est un sacrifice, doit être un sacrifice public, il fallait que ce vœu secret apparût publiquement, qu'il s'offrit en sacrifice au nom des hommes, au nom de l'Église. Comme l'Église est visible, cette offrande doit être visible et c'est le sens de cette offrande de Jésus au Temple. Au Temple, parce que le Temple est alors l'unique lieu de la vraie religion, de la religion mosaïque, figure de la nouvelle religion. Alors, ici, dans ce Temple, Dieu le Père va prendre possession de la victime du futur sacrifice. Selon les paroles du psaume, notre Seigneur s'offre en ce jour « Vota mea domino redam in conspectu omnis populi eius » « Je rends mes vœux à Dieu en présence de tout le peuple. » La Sainte Vierge Marie, qui a été elle-même offerte au Temple dès son enfance et qui a vécu environ 12 ans au Temple au rythme des sacrifices, était instruite des prophéties. Elle comprenait le sens de tous ces rites de l'Ancien Testament. Elle-même, dès que notre Seigneur est né, aspire à se démettre de tous les droits qu'elle a sur notre Seigneur pour le livrer entre les bras de Dieu le Père, pour le sacrifier pour nous, pour l'Église. Elle est déjà médiatrice de l'Église, comme plus tard elle le sera pleinement au calvaire. Elle offre son Fils. Remarquons qu'elle seule pouvait l'offrir, puisque la loi de Moïse disait qu'on ne pouvait pas offrir à Dieu une victime qui était, par exemple, le fruit d'un larcin. Il fallait que la victime appartînt à celui qui offrait le sacrifice. Ainsi, seule la Vierge Marie, qui possède Jésus, peut l'offrir légitimement à son Père. La Sainte Vierge accomplit les rites de la loi, qui étaient des figures. Alors il y avait ces deux rites, souvenez-vous. Premièrement, l'offrande des premiers-nés mâles, parce que ces premiers-nés des animaux et surtout des hommes étaient les images de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique du Père. Et en attendant le Messie, pendant ces millénaires, qui ont séparé l'institution de la loi de Moïse et puis la venue du Messie, Dieu était, pour ainsi dire, apaisé par l'offrande journalière des premiers-nés, qui était la figure de Jésus-Christ, qui lui serait offert pour les pécheurs, qui serait mis à mort. Mais déjà, ces figures qui étaient offertes chaque jour apaisaient Dieu. Le deuxième rite, c'est la purification des mères après l'enfantement. Pourquoi ? Parce que cet enfantement était comme une figure ou un rappel du péché originel qui se transmet par voie de génération. Ces impuretés légales, donc, qui résultaient de la naissance des enfants, ont un symbolisme très profond. Le livre du Lévitique, qui instituait ces purifications légales, demandait la circoncision de l'enfant après 7 jours, puis 33 jours plus tard, encore, la mère ne pouvait pas s'approcher du temple et ne pouvait pas toucher aux choses saintes. On a donc pendant 7 jours la mère et l'enfant qui sont impurs légalement. C'est l'image de tous les temps qui précèdent l'incarnation. Pendant tout ce temps-là, ni la loi, ni la circoncision seule par elle-même ne pouvaient procurer le salut. Puis le 7e jour, l'enfant était circoncis. Le 7e jour correspond au sacrifice de notre Seigneur. Puis, après ces 7 jours, il reste encore ces 33 jours. C'est la figure des 33 ans de la vie terrestre de notre Seigneur dans l'infirmité de la chair, dans l'infirmité de la génération d'Adam. Et pendant ce temps, notre Seigneur non plus ne peut pas rentrer dans le sanctuaire du ciel, il ne peut pas rentrer dans le sein du Père où il est engendré éternellement. C'est également, ces 33 ans sont aussi la figure de l'Église qui était exclu du ciel tant que Jésus n'avait pas été mis sur la croix. On pourrait aussi voir dans ces 33 jours plus 7 jours, 40 jours, le souvenir de l'Exode. Dans le livre des Nombres, Dieu avait dit « Vos enfants seront errants 40 ans dans le désert selon le nombre de 40 jours que vous avez mis à considérer la terre promise ». Ces 40 ans étaient la punition de ce que les Hébreux n'avaient pas voulu obéir à Dieu en rentrant aussitôt dans la terre promise. Quelles étaient les victimes offertes dans ces rites de la présentation des enfants et la purification des mères ? Pour l'enfant mâle, on devait offrir, d'après la loi, un agneau en holocauste et une colombe en sacrifice pour le péché. Mais comme vous le savez, pour les pauvres, Saint Luc nous l'a dit, on pouvait remplacer l'agneau et la colombe par 2 tourterelles ou bien 2 petits de colombes. La première colombe, dans ce cas, était égorgée, son sang versé au pied de l'autel, le pied de l'autel étant la figure de la terre, et c'est la figure ou l'image de l'immolation sanglante et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la deuxième colombe était immolée et elle jetée au feu, entièrement consumée, sacrifice d'Holocauste. Et c'était l'image de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, consommée par le feu de la divinité dans la gloire de Dieu son Père. La résurrection dans le sacrifice, pour revenir aux 4 parties d'un sacrifice, la résurrection correspond à la consommation par le feu de la victime immolée au calvaire. Notre évangéliste Saint Luc ne dit pas de fait Notre-Dame et Saint Joseph ont offert des tourterelles ou des colombes. Il dit que la loi disait qu'on pouvait remplacer l'agneau et la colombe par 2 tourterelles ou 2 petites colombes. Nous ne savons pas ce qui a été offert. Et saint Antonin pense que cette ignorance que nous avons est volontaire dans la Sainte Écriture, parce que, dit-il, tous les chrétiens doivent être offerts, consacrés à Dieu. Les tourterelles représentant les gens mariés et les colombes représentant les âmes consacrées, qui, parce que la colombe, dit-il, pleure plutôt qu'elle ne chante, comme symbolisant la pénitence ou bien les pleurs sur la misère du monde. Et puis selon saint Athanase, ces 2 colombes sont aussi L'image de nos deux vies, la vie extérieure et la vie intérieure, la vie extérieure de notre vie purifiée par la pénitence, le sacrifice pénible des sens et des passions, donc la ruine du vieil homme, et la deuxième colombe étant la vie intérieure transformée par la vie divine. Saint Luc nous raconte comment, à l'occasion de ces rites, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne apparaissent. Le vieillard Siméon va prendre dans ses bras l'enfant Jésus. Ce n'est pas non plus sans signification. Saint Siméon est ici l'image de deux personnes. Il est l'image d'abord du Père éternel, qui reçoit, pour ainsi dire, l'offrande des mains de Marie, l'offrande de la victime de notre Seigneur Jésus-Christ dans ses bras. D'après les pères de l'Église, du reste, Saint Siméon appartenait à la tribu sacerdotale. Ainsi, le sein de Siméon est rempli, le sein de Siméon rempli de l'amour de Dieu, puisque Saint Luc nous dit que le Saint-Esprit était sur lui. Ce sein de Siméon, c'est le Père plein d'amour pour son Fils, qui reçoit cette victime agréable, en holocauste, en odeur agréable, et qui nous pardonne nos péchés. Mais Siméon est également, nous le verrons tout à l'heure, la figure de la loi mosaïque. La Sainte Vierge Marie remet donc Jésus dans les mains du Père éternel, de la part de l'Église. Elle le donne pour le salut du monde. Il est maintenant destiné, par cette offrande, voué à la mort. Cependant, comme la mort ne doit pas intervenir tout de suite, mais dans 33 ans, il est racheté 5 cycles, selon la loi. Il est rendu provisoirement vivant à sa mère. Et ces 5 cycles représentent, d'après saint Antonin, nos 5 sens corporels que nous devons offrir à Dieu en sacrifice pour que toute notre âme appartienne à Dieu. Plus tard, Jésus sera reçu dans d'autres bras, non plus les bras de Siméon, mais les bras de la croix. Et ce ne seront plus 5 cycles, mais son sang qui sera le prix du rachat. Saint Siméon représente également la loi mosaïque, c'est-à-dire toute l'ancienne alliance, qui passe le flambeau, pour ainsi dire, à la nouvelle alliance. Et la prophétesse Anne représente la gentilité. La gentilité elle-même figure de l'Église. Les deux, donc la gentilité et la synagogue, assistent à cette offrande et reconnaissent que leur vie va venir de cet enfant offert bientôt à Dieu en holocauste. Le Père éternel parle donc par la bouche de Siméon, qui va exprimer sa joie du salut enfin arrivé, du salut tout proche. Nous recevons nous-mêmes de la Vierge Marie, nous recevons les douleurs et la pénitence. La Vierge Marie recevra en plénitude au calvaire, partagera avec notre Seigneur les douleurs de la Passion, l'abnégation d'elle-même, de tout elle-même, afin de les communiquer à l'Église. De même qu'Ève avait partagé avec Adam la criminelle jouissance du premier péché et en avait communiqué les fruits empoisonnés à toute l'humanité. Eh bien ici, nous recevons de la Vierge Marie, en cette fête, l'esprit de pénitence, l'esprit de mortification. Nous sommes les membres de Jésus. Peu à peu, la nouvelle humanité régénérée se redresse par la pratique de la pénitence. La Sainte Vierge reçoit dans ce jour l'annonce du glaive de douleur, et elle le reçoit déjà en esprit. Cette annonce lui fend le cœur. Notre Seigneur, de toute façon, pour ceux qui le reçoivent dans leurs bras, pour ceux qui acceptent cette mortification, cette pénitence qui ouvre la vie à l'âme, notre Seigneur est donc à la fois cause de chute, mort du vieil homme, et de relèvement, la vie de l'homme nouveau. Mais pour ceux qui ne le reçoivent pas, continue Siméon, alors il n'est qu'un objet de contradiction, qu'un objet, qu'une occasion de mort éternelle. Eh bien, nous sommes invités dans notre vie chrétienne et plus spécialement dans notre vie religieuse à partager avec notre Seigneur, avec Notre-Dame, ces 33 ans de vie de pénitence. Le jour de notre profession correspond à ce jour de l'offrande, du vœu que nous faisons nous-mêmes d'Holocauste. Et les 33 ans, c'est le reste de notre vie religieuse qui nous prépare à la résurrection. Et c'est la Sainte Vierge qui nous conduit à la profession, qui nous tient par la main ensuite jusqu'au jour de la naissance, de la vraie naissance, au jour de la mort. Bien, confions-nous bien à elle, associons-nous de tout notre cœur à son esprit d'Holocauste pour la rejoindre bientôt dans l'éternité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.